Les rencontres du livre, le livre sous tous ses aspects avec Yolan Simon et ses invités.
Yolan Simon reçoit aujourd'hui Marie-Françoise Rose, auteur d'un livre, 200 ans d'histoire, et nous vous proposons de suivre la deuxième partie de cet entretien.
Bonjour.
Bonjour.
J'ai le plaisir de recevoir Marie-Françoise Rose, qui est bien connue des Havrais et au-delà du Havre, donc je dirais ex-directrice des bibliothèques, d'abord du Havre, puis de Rouen, pour finir avec Versailles, je ne suis pas trompé d'ordre.
Pas du tout, et j'ai pris ma retraite au Havre.
Donc cette atmosphère très studieuse là qui est
décrite. La salle de lecture, quand il y avait les 120 personnes dans la salle de lecture, c'était relativement silencieux. Hein.
Oui, on se faisait disputer quand on parlait un peu. Même Annie Ernaux le note. Hein,
Oui. J'ai toujours un peu disputé les lecteurs quand ils se mettaient à faire du bruit.
Bon. Oui, parce que c'est un lieu... Oui.
Que ce soit à Versailles aussi d'ailleurs. Bon,
c'est un lieu d'ailleurs qui a été un petit peu, comment dire, caricaturé par Arthur Rimbaud, dans son fameux poème Les Assis, là, on a l'impression que c'est tout des vieux machins.
Là. Oui. Mais là, il y avait beaucoup de jeunes, il y avait beaucoup d'étudiants, la salle de lecture était pleine.
Et alors, en effet, vous avez repris le thème des Je me souviens, alors, il y en a des savoureux. Il y a le canuet qu'on voit, il y a évidemment cette histoire qu'on racontait du congé. Il y a le souvenir de ce lecteur qui utilisait les bulletins de communication comme support de mots doux à la présidente de la salle.
Oui.
Et vous ne savez pas s'il est parvenu à ses fins, non ?
Non, il n'est pas parvenu à ses fins. Non, parce que je connais très bien qui a écrit le Je me souviens. Je sais aussi qui est l'auteur des gribouillis sur les bulletins de communication. Mais c'était... Si vous voulez, les bibliothèques, c'est des endroits où on travaille, mais on drague aussi. Hein.
C'est ce que dit Annie Ernaux, d'ailleurs, qui déjà avait 18 ans, 19 ans, et qui regardait quelquefois plus.
Parce que à l'époque, il y avait un président de salle, donc on se relayait toutes les deux heures dans la salle de lecture.
Alors nous en arrivons à des choses plus théoriques, plus techniques. Le problème du dépôt légal. Ça alimente beaucoup, je pense, les bibliothèques, et surtout les bibliothèques centrales.
Le dépôt légal donnait comme obligation aux éditeurs de déposer X exemplaires à la bibliothèque la plus importante du département, enfin de la région. Mais en fait, c'était aussi une charge parce que il y avait beaucoup d'imprimeurs dans une région. Ça voulait dire des arrivées importantes à la bibliothèque de Rouen. Le dépôt légal arrivait par sacs postaux, donc des mètres linéaires. Donc c'était à la fois un cadeau et pas un cadeau, parce qu'il y avait tout un travail à faire sur ces livres. Et théoriquement, ils ne pouvaient pas être prêtés, ils ne pouvaient être que consultés.
Voilà. Et le dépôt légal, ce n'est pas seulement des romans ou des livres.
Ah non,
des
c'est
livres,
tout, c'est tout.
C'est aussi
tout
la presse.
C'est la presse. Et alors ça, pour la presse régionale, c'est très intéressant parce que la presse de Haute-Normandie, enfin des départements, est conservée à la bibliothèque de Rouen.
Alors, ce dépôt légal, il est un peu moins strict maintenant ?
Non, il est d'abord, c'était Rouen qui était dépôt légal pour toute la Normandie. En 1998, les textes ont changé. Et Caen a eu le Calvados, la Manche, l'Orne,
l'Eure.
Non, l'Eure, c'est encore la... L'Eure, c'est la Seine-Maritime et Eure.
La Haute-Normandie.
C'est la Haute-Normandie, voilà.
Et alors, on arrive à un moment très important et qui occupe une grande place dans le livre, heureusement, avec bonheur, c'est les collections.
Ah oui, les collections, oui.
Et les fonds et les collections.
Oui.
C'est très riche.
C'est-à-dire que c'est une bibliothèque extrêmement riche pour son fonds ancien, dans la mesure où elle est les trois quarts des manuscrits des abbayes normandes. Par les dons et legs qui sont rentrés au XIXe siècle, la collection Lebert, chaque ouvrage du Lebert est un unique en quelque sorte. La bibliothèque Mombray qui fait dans les 50 000 volumes et qui a été dont la bibliothèque de Rouen ne s'est pas remise parce qu'il fallait les traiter, ces ouvrages, et elle n'arrivait pas à finir de les traiter. C'est parce que c'était un monstre, entre guillemets. Et puis, il y a eu des collectionneurs rouennais, comme Julie Doux, qui a donné à la bibliothèque de Rouen ses dessins du 18e. Donc, c'est un peu une bibliothèque nationale, quelque part, parce qu'elle a tout. Elle a du manuscrit, à l'imprimé, au dessin. Elle a aussi des photos, des collections de photos.
Même des collections de bibliothèque, puisque je ne savais pas qu'André Gide, Gide, exactement.
Récemment, en 2005, a été achetée la bibliothèque de Gide. Oui.
Oui, donc ce n'est pas par l'intermédiaire de Catherine Gide.
Si, c'est-à-dire que, si vous voulez, la bibliothèque de Rouen a eu contact avec Catherine Gide, et bon, il y a eu tout un...
Oui, parce que c'est une chose qui n'est pas toujours sue. Gide a eu une fille.
Oh si, maintenant on le sait quand même.
On le sait quand même, oui, c'est ça. Ce qui est d'ailleurs la grande raison, le grand traumatisme de sa femme, puisque le mariage était resté blanc.
Oui.
Et donc...
Ça devait être un peu fatigant d'avoir Gide comme époux.
Je ne sais pas, vous savez, une petite anecdote en passant, sur le marché qu'on appelle marché tiers toujours, il y a une marchande de légumes dont la mère était la femme de chambre de Madame Gide.
Ah oui.
Et qui était donc Cuverville, au château de Cuverville. Oui. Je l'avais rencontrée là parce que j'avais fait une lecture du centenaire de La Porte Étroite.
Oui.
Et après, elle m'a retrouvée. Alors, je dois toujours aller chez elle parce qu'elle a des éléments de coco. Enfin, des graines qu'il a ramenées du Congo. Puis alors, j'ai lu aussi qu'il y a une bibliothécaire qui s'est beaucoup occupée de Voltaire, qui a fait...
Voltaire, il y avait dans la bibliothèque le plâtre de Voltaire par Houdon.
Oui.
Et c'est une universitaire, Christiane Mervaux, qui a été prof à l'université de Rouen.
Et qui est là.
Quand elle est arrivée à Rouen, elle est allée travailler à la bibliothèque. Il y avait en usuel les œuvres complètes de Voltaire. Et elle a commencé à travailler sur Voltaire. Et c'est une grande spécialiste de Voltaire. Elle est publiée par l'université d'Oxford.
Et présidente des études voltairiennes. Enfin.
Donc, c'est à la bibliothèque de Rouen, je dirais, qu'il y a eu le déclic. Et elle s'est mise à travailler sur Voltaire grâce à ce qu'elle a trouvé à la bibliothèque de Rouen.
Alors, avant de revenir à Gustave, il y a Maupassant, bien sûr. Est-ce qu'il y a des choses sur Fontenelle ?
Fontenelle, il y a des éditions de Fontenelle. Il y a une bibliothèque cornélienne qui a été donnée à la bibliothèque de Rouen, pour la Maison Corneille d'ailleurs, par un collectionneur qui était Pelé. Donc la bibliothèque de Rouen avait fait une exposition Corneille dans les années 80.
Oui, c'est vrai, on n'a pas parlé de Corneille.
Il y a une bibliothèque cornélienne.
Mais il n'y a pas grand-chose comme manuscrit Corneille. Tient dans une petite malle.
Toute façon, les auteurs
de
théâtre de l'époque, il n'y avait pas de manuscrit. Il n'y a pratiquement rien, il y a des signatures.
Fameux problème des manuscrits de Molière. Qui mène certains à dire que c'est Corneille qui a écrit les pièces de Molière.
Mais donc, il y a une bibliothèque cornélienne avec les premières éditions, et on avait fait une très belle exposition Corneille. C'est vrai que c'est... La chose la plus importante dans les manuscrits littéraires, c'est Flaubert.
Oui. Aussi l'ami de Flaubert, Louis Bouilhet.
Il y a Louis Bouilhet qui a été conservateur de la bibliothèque pendant
également.
Deux ans.
Et Flaubert grogne en disant « on ne t'a pas mis là pour classer des livres, on t'a mis là pour écrire des vers ».
Oui, mais Bouilhet a quand même essayé de faire son travail tout à fait correctement.
Louis Bouilhet qui est l'inventeur de la poésie scientifique en quelque sorte, qui a écrit des poèmes sur la science.
Et on a la bibliothèque de Rouen, des manuscrits de Bouilhet, un fond Bouilhet.
Il y a des choses de Louis Collet aussi peut-être. Des lettres à Flaubert.
À des lettres à Flaubert, mais je ne pense pas qu'il y ait grand-chose.
Alors, on arrive justement à ce fond magnifique qu'est le fond Flaubert.
Alors oui, avec ce don de la nièce de Flaubert à la bibliothèque de Rouen en 1914, qui a été ensuite la brosse à confier Gabrielle Leleu, qui était une bibliothécaire,
oui, c'est ça, oui.
Le classement des manuscrits de Madame Bovary. Et Yvan Leclerc, dans ce livre, fait tout un article sur Flaubert et fait toute une notice sur Gabrielle Leleu.
Et alors, Monsieur Cachard, Pierre-Yves, je crois.
Pierre-Yves Cachard.
Pierre-Yves
oui.
Cachard va faire une étude extrêmement pointue et très reconnue dans les études flaubertiennes sur les manuscrits de
Madame
Bovary.
Pierre-Yves Cachard, il a été directeur adjoint à la bibliothèque municipale de Rouen. Il a travaillé à Rouen. Il a travaillé à la numérisation des manuscrits de Flaubert.
Voilà, oui.
Et donc, il a fait tout un travail avec les amis de Flaubert et le site Flaubert de l'Université de Rouen, Yvan Leclerc. Et je lui ai demandé, alors il a été conservateur de la directeur de la bibliothèque universitaire du Havre. Maintenant, il est inspecteur général des bibliothèques.
Oui.
Et très gentiment, il m'a donné un texte parce que je voulais qu'il parle de cette...
Est-ce que vous savez si cette année, ou qui est l'année Flaubert, il y a quelque chose
oui,
de prévu à
Rouen? Oui, il y a une
Rouen.
Année Flaubert à Rouen. Oui, oui.
Oui,
oui.
Voilà.
Je n'ai pas le programme
je
en tête.
Je sais que Patrick Verschuren, qui fait la Maison de la Poésie de Val-de-Reuil, là, est en train de préparer un spectacle Flaubert.
Mais bien sûr, il y a le...
Alors, Maupassant, c'est moins riche.
C'est-à-dire que Maupassant, c'est Jeanne Dupic qui avait acheté des éléments du manuscrit d'une vie. Hein. Et donc, il y a des éditions de Maupassant. On a acheté... Alors, moi, j'ai acheté une correspondance de Maupassant à la comtesse Potocka. Et puis,
Qui est la comtesse Potocka?
La comtesse Potocka, c'est une comtesse parisienne qui avait un salon où Maupassant fréquentait. Et d'ailleurs, elle a une fin de vie absolument épouvantable. Et il était très amoureux de cette comtesse. Et il y a toute une correspondance qui est tout à fait sympathique. En plus, à un moment, on voit qu'il commence à être malade. Bon, et on avait acheté mais la bibliothèque de Rouen continue des achats. Quand elle peut, elle achète des manuscrits de Flaubert, elle achète des lettres de Maupassant. Enfin, c'est des pôles importants de...
Oui, j'ai vu que dans les fonds, par exemple, ça m'a beaucoup impressionné, il y a des tablettes mésopotamiennes.
Ah oui, mais alors ça, vous savez, les tablettes mésopotamiennes, il y en a dans toutes les grandes bibliothèques, parce qu'à Versailles, il y en avait aussi. Parce qu'il y avait des collectionneurs à l'époque qui ramenaient des tablettes mésopotamiennes, ils les déposaient à la bibliothèque. Donc il y en a à la bibliothèque de Rouen, mais il y en avait aussi à Versailles.
Il y a quand même quelque chose que vous signalez dans le livre, qui est une chose extraordinaire, c'est que ces gens avaient inventé la minute, c'est-à-dire certaines tablettes, il y avait la première version qui était mise sur la tablette d'argile et on la recouvrait d'une deuxième version qui avait le double et si jamais il y a une contestation parce qu'on pouvait travailler le stylet c'est extraordinaire, ils inventent la minute et la photocopie
tout à fait.
J'étais impressionné, alors c'est pas si impressionnant que ça.
Si c'est impressionnant, mais c'est-à-dire que moi, si vous voulez, je suis pas blasé, mais c'est vrai que j'en avais à Versailles aussi.
Alors il y a un fonds normand, hein, évidemment.
Alors, dans toute bibliothèque, il y a un fonds normand au Havre, il y a un fonds normand à Rouen. Et c'est vrai que les conservateurs ont toujours eu le souci, surtout à la fin du 19e, de choyer ce fonds parce que l'histoire de la région.
Oui.
Alors, c'est un fonds normand avec une spécificité qui est la ville de Rouen.
Oui. Alors, j'ai vu par exemple le nom d'Amélie Bosquet, qui travaillait sur elle travaillant pour les contes et légendes de Normandie, Alors, il y a beaucoup de fonds comme ça, régionalistes, de Tonaille. Il y a la Varande, non, je crois?
Non, la Varande, on n'a pas grand-chose. Il y a des éditions de la Varande, mais peut-être que la bibliothèque d'Evreux a des...
Parce que
la Varande, c'était l'heure. La Varande... Non, mais bon, il y a des éditions de Maurice Leblanc.
Oui, puis la Varande n'aimait pas les hauts normands, hein, parce que la Varande avait dit le bas normand est généreux et chevaleresque, le haut normand est radin, enfin, il ne dit pas ça est lâche, etc.
Il y a des dessins de Stache Béra, là, le frère de Frédéric Béra,
Alors, dans le fonds normand, il y a aussi des choses qui sont la vie culturelle aujourd'hui, la vie éditoriale aujourd'hui. Je pense qu'on y trouve des gens comme Michel Bussy, qui est en train de devenir un météore. Là. On trouve Max Aubion, qui est... fait beaucoup de policiers, les éditions aujourd'hui, les éditions des Falaises, l'Écho des Vagues, Guy Pessiot, le petit Normand.
Si vous voulez, une bibliothèque municipale, elle se doit de rassembler les productions de sa région, de son...
Oui, oui, voilà. Bien sûr, oui. Est-ce que vous pensez que ça s'est développé, l'édition en Normandie,
Je ne me rends pas... Enfin, je ne me rends pas compte.
Oui, il faudrait voir le Centre régional du livre, lettres.
Oui. Je ne saurais dire.
Oui.
Mais je sais qu'en Basse, à Caen, il y a des tas de petits éditeurs. Il y en a aussi en Haute-Normandie, mais je ne connais plus assez la question.
Et avec les libraires, alors j'ai vu qu'il y a une libraire que vous présentez plus particulièrement.
Alors bon, c'est la librairie Elisabeth Brunet, mais il y a la librairie Bertrand. La librairie Elisabeth Brunet, c'est à la fois une librairie de livres actuels et en même temps des livres du 19e. Et c'est une librairie où il est bon d'aller parce qu'on chine un peu.
C'est une vraie bibliophile.
C'est une vraie bibliophile parce qu'elle fait de la... Elle fait de l'édition.
Avec des documents rares un petit peu.
D'ailleurs, elle a publié un dossier Flaubert pour la Saint-Polycarpe qui était la propriété des amis Flaubert qui l'ont déposé à la bibliothèque de Rouen et elle en a fait des facsimilés. Non, mais elle fait un travail d'édition aussi.
Alors, en passant, j'ai un peu zoomé, comme on dit, non?
Oui.
Non, pas zoomé, le contraire, zappé.
Oui.
Sur un peu toute la succession, justement, de vos prédécesseurs et prédécesseuses. Il y a là, on ne dit pas prédécesseuses.
Il y a beaucoup, si vous voulez.
Il y a des personnalités quand même très importantes qui ont été là. Louis Bouillet, dont nous parlions.
Oui, il y a Louis Bouillet. Donc, alors,
C'est vous qui avez particulièrement travaillé sur les portraits des divers conservateurs.
C'est-à-dire que dans ce livre, je souhaitais que ce soit une histoire des fonds, mais que ce soit une histoire des personnes et qu'on voit un peu qui avaient été les bibliothécaires à un moment donné. Il y en a un, à une époque, il travaille à la bibliothèque, c'est Théodore Bleu Breton, c'est un ouvrier poète, 1848. Bon, ça, c'est quand même intéressant. Et puis, il y a Eugène Noël qui termine sa carrière à 82 ans. Bon, c'est intéressant de savoir qui. Il y a Potier, qui a, sous le mandat duquel et avec le maire Henri Barbet, où est rentré le fonds Lebert, où est rentré la collection Mombray, où a été acheté un manuscrit sur l'entrée de Henri II à Rouen en Belgique. Enfin, il y a des moments où des choses absolument extraordinaires.
Et puis, on n'a pas parlé des lieux, et notamment, je voudrais que vous parliez de ce peintre qui va...
Alors, le bâtiment de la bibliothèque actuelle, qui a ouvert en 1888, dans un endroit où, d'un côté, il y a le musée des Beaux-Arts, de l'autre côté, la bibliothèque. C'était un musée-bibliothèque. On a détruit tout le quartier pour construire ce bâtiment. Et il y avait un programme décoratif qui a été demandé à un peintre, Paul-Albert Baudouin, qui était marié avec la petite-fille de Michelet, et qui était un élève de Puvis de Chavannes. Et le thème, c'était l'histoire de l'écrit. Donc, actuellement, ce qu'on peut encore voir dans le hall de la bibliothèque, c'est quatre grandes peintures où vous avez l'apparition du livre, vous avez le scriptorium, vous avez l'imprimerie, qui est l'ancienne imprimerie Cagnard à Rouen, où on voit Eugène Noël au milieu, et vous avez une autre peinture qui représente l'arrivée des Phéniciens. Bon, et il y avait une grande peinture qui fait la couverture du livre, qui était le livre ouvert à tous, qui était une femme qui ouvrait les bras et qui illustre le développement des bibliothèques populaires à l'époque et de la lecture.
Alors, très Puvis de Chavannes.
C'est Puvis de Chavannes.
Oui, il était l'élève un peu de
Puvis. Il a été l'élève de Puvis de Chavannes. Oui.
Et alors, maintenant, la bibliothèque, Simone de Beauvoir, les diverses bibliothèques, parce qu'il n'y a pas un seul lieu maintenant.
Mais de toute façon, depuis 1906 ou 7, il n'y a pas un seul lieu. Il y avait la grande bibliothèque, celle de la rue Jacques-Villon, aujourd'hui.
C'est une galaxie.
C'est comme dans toutes les villes, il y a une bibliothèque et puis il y a des bibliothèques de quartier.
Oui.
Alors, il y a eu ces 20 dernières années Il y a eu des projets de construction de bibliothèques qui ont eu des... Bon, construction de bibliothèques, il y a eu un concours avec un architecte important, Ricciotti, je crois. Et le projet architectural est sorti de terre, rive gauche, mais il a été transformé en pôle culturel avec une bibliothèque de 800 mètres carrés et les archives départementales.
Oui.
Donc, la bibliothèque Simone de Beauvoir, oui. Où est maintenant la direction de la bibliothèque. Et puis, il y a un ensemble de bibliothèques de quartier. Mais au début du XXe siècle, il y avait une bibliothèque à Saint-Sever. Ensuite, il y a eu une bibliothèque dans la chapelle des Capucins, la chapelle des Ursulines. Et puis, dans les années 60, avec le sixième plan où il a été dit que tout était à faire pour le livre, il y a eu la création de bibliothèques de quartier à la Grand-Mare, au Châtelet,
voilà.
Un grand Saint-Sever rénové et au Théâtre des Arts.
Oui.
Et une bibliothèque des jeunes. Donc, si vous voulez, c'est...
Alors, une bibliothèque, c'est pas seulement des livres, c'est pas seulement des peintures, c'est pas seulement des manuscrits, c'est aussi de la musique, c'est aussi du son.
Il y a un fond musical, oui.
Et donc, il y a le legs Boieldieu, notamment.
Il y a Boieldieu, et puis il y a le...
Rappelez-nous un petit peu, Boieldieu, je pense que nous sommes dans une radio très mélomane, alors ils le connaissent, je pense.
Oui, Boieldieu, François Adrien, il y a son fils aussi, et ça a été quand même un grand musicien de cette époque. Hein, il y a eu un legs Samson Boieldieu à la bibliothèque de Rouen. Donc, il y a même eu une exposition Boieldieu au Musée des Beaux-Arts, où la bibliothèque avait prêté des choses.
Et... Alors, comment ne pas terminer cette émission, hein, on a oublié beaucoup de choses, vous me direz un petit peu, mais pour terminer momentanément, sans parler, on s'en est à Rouen, du Fonds Jeanne d'Arc et de Jeanne d'Arc.
Oui, alors, le Fonds Jeanne d'Arc qui est avec un certain sourire, parce que c'est la petite-fille de pasteur Camille Valérie Radeau qui avait collectionné tout un ensemble divers et variés sur Jeanne d'Arc, qui va de l'imagerie populaire à des statues. Et ça a été donné à la bibliothèque de Rouen par la famille, et avec obligation d'avoir une exposition permanente. Mais bon, la famille a été... Il y a donc un moment eu, dans la bibliothèque de Rouen, une salle avec des objets Jeanne d'Arc.
Joannique, comme on dit.
Voilà. Et puis, la famille a compris... Enfin, après, manquait de place. Donc, à un certain moment, on avait des boîtes dans lesquelles on pouvait monter une exposition Jeanne d'Arc en très peu de temps. Et alors maintenant, ce qui est bien...
Des Jeanne d'Arc en kit.
En kit. Mais alors, ce qui est bien, c'est qu'avec l'historial Jeanne d'Arc, quand on termine dans la dernière salle, il y a une présentation d'une partie de ces objets et de ces documents. Donc, ça a une place. Alors, il y a Jeanne d'Arc, mais ce qui est intéressant dans ce livre, c'est que tous les auteurs qui ont été sollicités, il y a notamment Annie Ernaux qui a été sollicitée, qui a répondu, mais tous les auteurs, que ce soit Yvan Leclerc, Joël Robert,
Daniel Charles.
Oui,
non, il n'est pas auteur, lui, sollicité.
Si, il a écrit un petit texte.
C'est Daniel Charles qui enseigne à l'Université du Havre, c'est
non,
ça
non, ah non, 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 ah non, 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 c'est un ancien lecteur de la bibliothèque.
Ah bon.
C'est Catherine Asset, qui est professeure de littérature à Oxford, de littérature française à l'Université d'Oxford. Toutes les personnes qui l'ont fait, par exemple, Jean-Dominique Melot, ont tous travaillé à Rouen et ont tous bénéficié des collections de Rouen. Et puis, je pense aussi aux personnes qui ont travaillé à la bibliothèque et qui ont donné des textes.
Alors, donc, vous notez sur la couverture, sur la première, avec la collaboration, je savonne, comme on dit en termes techniques, de Jean-Dominique Melot et de Valérie Neveu. Peut-être qu'elle mérite une mention un peu spéciale, ces deux co-auteurs.
Conservateur général à la Bibliothèque nationale. Il a fait sa thèse sur l'imprimerie à Rouen au XVIIIe siècle et quand il était thésard, il est chartiste, et quand il était thésard, il venait travailler à la Bibliothèque de Rouen. Je lui ouvrais la Bibliothèque de Rouen le lundi et se promenait comme il voulait. Et Valérie Neveu a été conservateur chargé du fonds ancien,
Je suis très inquiet tout d'un coup, parce que je me demande si on a parlé des presses universitaires de Rouen et du Havre et noté et parlé de l'éditeur.
Et bien, tout à l'heure, je vous ai dit que c'était les purs qui avaient l'éditeur.
Ce qui est
important, parce que
en fait, il y a une régionalisation des presses universitaires, des presses universitaires de France par région.
Hein. Ben oui, alors là, les purs ont accepté ce projet de livre. Donc oui, c'est oui. une des directrices de la bibliothèque de Rouen, Christelle Di Pietro, qui avait contacté François Bessire au PUR oui, pour présenter oui, le oui. projet, qu'il avait accepté.
Voilà. Et voilà. Oui. Est-ce que j'ai oublié tout de même une chose qui vous paraît importante, ou sans doute beaucoup, mais peut-être pour achever, il y a peut-être un point sur lequel vous vouliez un peu insister. Peut-être le temps que vous cherchiez, souligner ce que je disais dans la voiture. Alors, il y a une lacune dans ce livre, c'est que l'action de Marie-Françoise Rose est zappée, comme j'ai dit. Non, mais alors, elle n'a pas voulu parler d'elle.
Non, parce que ça n'avait aucun intérêt. Quand on parlait de Daniel Autoir oui. tout à l'heure, Daniel Autoir a réalisé une maquette pour une reliure des manuscrits de Bouvard et Pécuchet.
Ah oui, oui.
Et il y a une très belle photo dedans. Alors aujourd'hui, on ne le ferait peut-être plus parce que ça change un peu l'ordre oui. des manuscrits. Mais il faut penser que les bibliothèques peuvent être aussi des lieux
de création
création artistique.
Oui, parce éditoriale. Que là, oui. Et eux aussi, je l'ai vu, des couvertures, par exemple.
Des couvertures, on peut acheter, alors là malheureusement on n'a pas pu le mettre, mais parce qu'on a fait des tas de photos, les bibliothèques achètent des livres d'artistes, donc voilà.
Alors je vois qu'on me fait passer des petits panneaux, hein, que nous sommes en fin de parcours,
oui.
hein, et donc je ne peux que vous remercier vivement de ces deux émissions, hein, sur la Bibliothèque municipale de Rouen, 200 ans d'histoire,
oui,
et
oui.
non, je ne sais pas combien j'ai dit la première
ans.
Fois,
20 et
ans.
Il est à la galère. Là.
Alors, il est en vente, dans toutes les librairies, hein, parce qu'on ne va pas faire de...
Non, on ne va pas faire de publicité.
Il doit rester une autre librairie... je ne sais plus ce qui reste. Ah ben, il y a la FNAC, je pense que la FNAC aussi.
Ah ben oui, la FNAC.
Oui, il y a la FNAC également.
Oui, il y a la FNAC.
Et il est évidemment
en
vente dans les librairies de toute la région, bien sûr. Et même,
ça, j'en sais rien.
Et même en France, on peut le commander peut-être par...
on peut le commander sur Internet.
Oui. On aura peut-être l'occasion, si vous y venez, de se voir au Salon du Livre de Caen, si jamais il existe,
si
parce que les purs y sont toujours,
de
Caen et ceux de Rouen.
Oui, oui, oui.
Eh bien, donc, c'était donc une rencontre avec Marie-Françoise Rose, qui vient de publier ce très bel ouvrage sur l'histoire, en quelque sorte, et les histoires de cette grande bibliothèque.
Voilà.
Merci.
Merci.
C'était Les Rencontres du Livre, le livre sous tous ses aspects, avec Yolande Simon et ses invités.